France Inter, le 18-20.
Une semaine en France vous offre un voyage au pays de la voix ce soir. Vous me direz, quoi de plus normal quand on écoute la radio ? Eh bien, pour une fois, on ne va pas se contenter de parler, d'écouter ou d'entendre des voix. On va donner la parole à quelqu'un qui a fait de la connaissance de la voix et de sa thérapie son métier. Le grand phoniatre Jean Abitbol est avec nous ce soir. Lui qui, depuis plus de 40 ans, tente de comprendre les mécanismes de cet instrument. Son dernier livre s'intitule « Voix de femme ». Il est publié chez Odile Jacob. On en parlera bien sûr avec lui, car en matière de voix aussi, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Mais on ne s'arrêtera pas là. On parlera de la voix en général, de son rôle pour la vie en société, de son pouvoir, notamment en politique, et de son importance pour chacun d'entre nous, puisque c'est un des marqueurs de notre identité. Et puis, on se fera plaisir ce soir, on écoutera certaines des plus belles voix de la chanson et du théâtre. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menahem et réalisée par Marie-Annick Rimbaud, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, avec notamment de la politique et une crise aux urgences. Juste avant 19h, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, on ira dans une salle de démolition. C'est étrange, mais ça existe. Quand certains, pour se défouler, se rendent dans des lieux où l'on peut tout casser. À 19h, le journal de Sébastien Paour. À 19h20, ensuite, le téléphone sonne. Question, ce soir, sur la place des femmes dans le sport en général et dans le foot en particulier. On sera alors à moins de 2h du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Parc des Princes. Premier match, vous le savez, entre les Françaises et les Sud-Coréennes. Alors, surtout, n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir, docteur Jean Abitbol.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes chirurgien, ORL, phoniatre. Vous venez donc de publier chez Odile Jacob « Voix de femme ». C'est un livre dans lequel vous nous montrez à quel point notre voix est un instrument sexué. On sent d'ailleurs chez vous une passion particulière pour les voix de femmes, ou je me trompe ?
Non, vous vous trompez pas, absolument, parce que la voix de la femme, c'est la voix qu'on a entendue quand on en était dans le ventre de notre maman et qu'on devient fœtus à partir de 3 mois de grossesse. Et cette voix vient imprimer notre cerveau. Et c'est elle qui, dans le champ prénatal, si je puis dire, va venir quelque part nous guider plus tard. La preuve en est, c'est que le petit bébé qui vient de naître, à l'âge de 5-6 jours, lorsque sa maman va lui chanter et va lui fredonner un air, eh bien, il va s'arrêter de pleurer tout de suite. Donc, il a une mémoire de cette voix, et celle-ci, pour quelle raison ? Pour énormément de raisons qu'on va voir maintenant.
Effectivement, on va en reparler longuement, notamment des voix de femmes, mais je voudrais peut-être que, en guise de préambule, on s'arrête d'abord sur le mécanisme général de la voix, pour qu'on ait bien en tête de quoi on parle.
Alors, au niveau de la voix, ce qui est absolument passionnant, c'est trois choses. La première, il y a un instrument de musique qui s'appelle le larynx, les cordes vocales. La puissance, ça va être le souffle pulmonaire, les cordes vocales vont vibrer. Et il y a une caisse de résonance, si je vous dis 1, 2, 3, 1, 2, 3, là je viens de boucher le nez, mes cordes vocales sont les mêmes.
Mais la voix a changé. Et on a bien entendu que vous aviez bouché votre nez.
Voilà. Deuxième point, c'est que la voix doit être commandée. Le grand chef d'orchestre, ce sont certes le cerveau, mais, et c'est le troisième point, absolument fabuleux, ce sont les hormones. Les hormones mâles et les hormones femelles vont driver, vont être la cible de cette voix sur le plan de la sexualité, mais pas seulement, sur le plan du désir, sur le plan du plaisir. Et là, on voit parfaitement comment va se jouer l'ocytocine, la dopamine, toutes ces hormones qu'on connaît par rapport à l'androgène et aux androstérones. Comment on est sûr ? C'est très simple. C'est l'histoire des castrats. C'est absolument extraordinaire. Quand on est castré avant l'âge de 10 ans, pour le petit garçon, bien sûr, eh bien, il va garder une voix, non pas une voix de femme, mais une voix d'enfant. Et la voix d'enfant est 3 notes au-dessus de la voix de la femme. Et là, effectivement, on s'aperçoit quoi ? C'est que quand il n'y a pas d'androgène, la voix ne devient pas dite masculine, mais elle reste une voix d'enfant. Et chez la femme, deuxième point, c'est ça qui est important chez la femme, c'est que si jamais elle prend des androgènes à long terme, eh bien sa voix se masculinise.
En tout cas, quand je vous écoute, je comprends que c'est un processus global, la voix, c'est quoi ? C'est une sorte d'orchestration, de fusion générale, c'est tous les organes qui entrent en action en même temps, c'est ça ?
Tout à fait, c'est multifactoriel. Tout se met dans la même orchestre. Faut-il que le chef d'orchestre, quel est le chef d'orchestre ? C'est votre émotion.
Le cerveau ?
Le cerveau, mais plus que cela. C'est être réducteur de dire que c'est que le cerveau, que l'instrument de musique, que les hormones. Le troisième chef d'orchestre, le quatrième ultime, eh bien, c'est vos émotions. Vos émotions vont complètement cibler la voix. Et la preuve en est, quand vous dites à quelqu'un « Bonjour, comment vas-tu » et qu'il vous répond « Je vais bien », vous dites « Non, j'entends que tu vas pas bien. Pourtant, tout était en marche et la voix vient trahir votre émotion.
On ne peut pas mentir avec sa voix, c'est ça que vous voulez nous dire? Certains y arrivent peut-être.
Oui, j'irai plus loin que ça. C'est qu'une phrase dans la Bible du roi Salomon dit lorsqu'on doit juger quelqu'un, eh bien, un aveugle, on ne peut pas lui mentir. Et surtout, ne pas prendre quelqu'un qui, quelque part, n'entend pas bien, car l'écoute, l'oreille, c'est le pilote de la voix.
Alors, vous avez énuméré les organes qui entrent en action pour la fabrication de la voix. Oui. Peut-être un mot des cordes vocales, parce que on les voit pas et parfois on ne sait pas très bien comment ça s'organise. En fait, il y en a deux, c'est ça, et elles sont horizontales.
Il y a deux cordes vocales qui sont horizontales, qui sont situées juste au-dessus de la trachée, juste en dessous, j'allais presque dire, de la langue, donc de la bouche, et c'est elles qui vont vibrer. Mais pour avoir une voix, faut-il que ces deux cordes vocales se touchent et vibrent. Par exemple, je vous fais un « et bien là, mes cordes vocales vibrent à peu près à 280 fois par seconde. Par seconde. Ce qui signifie que essayez de frotter vos mains 280 fois par seconde,
non, on n'y arrive pas.
Vous allez voir, eh bien, elles vont brûler. Donc la lubrification des cordes vocales est capitale, et l'une des pathologies les plus simples, c'est effectivement lorsqu'on a quelques gouttes d'acidité qui vient du reflux, eh bien ces cordes vocales sont desséchées et la voix se casse.
Quelle longueur à peu près les cordes vocales, Jean-Luc Boll? Petit peu moins de 2 cm
voilà,
pour la femme, un peu
chez
plus pour l'homme.
Chez l'homme c'est 23 mm, donc 2,3 cm, et chez la femme elles font 20 mm. Mais le diamètre du larynx de la femme est plus petit que celui de l'homme, ce qui fait que la résonance, les cordes vocales étant elles-mêmes extrêmement plus frêles, eh bien la résonance et la voix elle-même va être plus aiguë.
Alors le larynx, instrument essentiel, vous le disiez, à la fois un instrument à cordes et à vent.
Oui, la force, c'est le souffle pulmonaire qui fait vibrer les cordes vocales. À cordes, parce que les cordes vocales vont vibrer l'une contre l'autre. Et enfin, la résonance, c'est finalement... comme un Stradivarius, c'est la façon dont le violon est formé. Et c'est la raison pour laquelle il y a 7 milliards d'individus, 7 milliards de voix différentes. Les jumeaux, les vrais jumeaux, souvent confondent leur voix. Effectivement, dans ce cas de figure, ça peut être l'exception. Quelquefois, on peut l'empreinte vocale qu'ils ont peut être exactement la même.
7 milliards d'individus et des voix uniques comme celle-ci. On a du mal à l'arrêter,
super.
Maria Callas.
Ce que j'apprécie particulièrement dans cette voix de la Callas, d'ailleurs je le mets dans le livre, c'est qu'on sent cette fragilité, on sent cette souffrance. Ce qui est beau dans une voix, justement, c'est qu'elle n'est pas parfaite. Quelquefois, on attend et on écoute cette cicatrice qu'elle a dans sa vie. Et il n'existe pas de narcissisme de la voix, car on va à sa perte. Vouloir la voix de quelqu'un d'autre, c'est vouloir la personnalité de quelqu'un d'autre. C'est presque Faust, c'est presque quelque chose de diabolique. Et la voix de chaque personne lui appartient. Faut-il qu'on soit bien dans sa voix comme on est bien dans sa peau?
Pourquoi dites-vous, Jean-Luc Boll, que la voix est le miroir de notre sexualité?
Parce que lorsque vous prenez le téléphone et vous dites, je reprends toujours cette idée puisqu'il n'y a pas de visage devant soi, vous dites « Allô ?» Dans la quart de seconde, vous savez si c'est un homme ou une femme qui parle. Vous pouvez vous tromper une fois sur 20 peut-être, mais le simple façon dont l'autre va vous dire le « Allô, bonjour », vous saurez la sexualité que cette personne présente. Donc oui, c'est le meilleur de notre sexualité dans ce domaine-là. Et c'est là où il y a une chose extraordinaire, comme Jeanne Moreau, qui parlait très grave, ou Simone Signoret en fin de carrière, où elle parlait comme ça. Mais on savait que c'était une femme. Ce qui veut dire que la voix grave, ça ne veut pas du tout dire une voix d'homme. C'est une voix de femme également, avec beaucoup de séduction. C'était le fameux, rappelez-vous, Macha Meryl, que nous connaissons. Eh bien, rappelez-vous cela. Eh bien, la voix grave, c'est la façon dont on va parler. C'est les silences entre les mots. C'est le rythme de votre voix qui va donner cette sexualité dans cette voix.
Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu l'effet des hormones sur la voix des femmes. Vous avez fait des études très intéressantes, notamment avec des gynécologues. Vous avez même comparé des frottis des cordes vocales avec des frottis du col de l'utérus. Expliquez-nous un petit peu, effectivement, le parallèle qu'il y a entre les deux.
Alors, on va rentrer dans le vécu que j'ai eu il y a quelques années maintenant, il y a près de 30 ans. Beaucoup d'institutrices, car énormément d'institutrices de l'école maternelle viennent me voir, tout simplement parce que c'est le plus beau métier du monde. Elles doivent chanter avec les enfants entre l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, et parler en rentrant à la maison, donc elles ont une voix parlée, une voix chantée extrêmement importante. Et tous les mois, je voyais certaines de mes patientes venir, et je me disais, c'est psycho. Comment ça se fait que la voix à chaque fois se casse une fois par mois, quoi? Alors savoir avec les règles et la menstruation, je veux bien. Et puis l'idée un peu folle m'est venue, c'est de faire un frottis des cordes vocales. On prend une petite brosse qu'on glisse dans le fibroscope en passant par le nez et on frotte la surface des cordes vocales. Un frottis, c'est qu'on prend quelques cellules. Et le même jour, on faisait un frottis en gynécologie qui était le frottis du col utérus. Eh bien, les deux frottis, faits à l'époque par le professeur Jean Debrux, qui était un maître en la matière, m'a dit, mais attends, c'est curieux cet utérus, il n'est pas tout à fait... C'est un frottis de col de l'utérus, mais il est bizarre, dis donc, monsieur. C'est un frottis de cordes vocales. Donc oui, il y a un cycle menstruel au niveau des cordes vocales, comme il y a un cycle menstruel au niveau du col de l'utérus.
Et d'ailleurs, vous nous apprenez que, au passage, qu'autrefois à la Scala de Milan, mais dans Exactement. D'autres opéras aussi, les cantatrices, elles ne chantaient pas les deux jours précédant les règles, ni pendant la durée des règles,
Absolument.
Parce que la voix
et
change
étaient,
à ce moment-là.
Elles étaient payées, même si elles ne chantaient pas, car déjà à l'époque, ils avaient compris, pour ces passionnés de l'opéra, qu'elles ne pouvaient pas donner tout ce qu'elles voulaient. Alors aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait vrai. Car on a des compléments alimentaires, on sait comment ça fonctionne et ça évite ce genre de choses.
En tout cas, c'est absolument passionnant et c'est dans votre livre, Jean Habitbol. On en reparlera évidemment, mais on va passer à l'actualité de la semaine grâce à ce mix qui a été mis en onde par Jérôme Chélius. Au programme, la Coupe du Monde de football qui débute ce soir, le crépuscule des Républicains. Et pour commencer, retour sur la marche des mutilés qui a eu lieu le week-end dernier à Paris.
Il faut arrêter de tirer sur les manifestants avec des armes de guerre, parce que ce sont des armes de guerre. Oui, il peut y avoir des agités qui vont casser des vitrines ou je ne sais quoi, et c'est tout à fait déplorable et regrettable. Mais entre casser une vitrine et casser une tête ou arracher une main, enfin, je veux dire, il faut remettre les choses en perspective quand même.
C'était dimanche dernier à Paris, une marche des mutilés, comme cet homme qui a perdu un œil lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Mais le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez, assume.
Quand il y a une agression contre des policiers et qu'il y a une riposte proportionnée, oui, il peut y avoir des blessés. C'est pas parce qu'une main a été arrachée, parce qu'un œil a été éborgné, que la violence est illégale. Il faut bien intégrer ça dans le processus. Donc il est hors de question de revenir sur le LBD.
Il aura tenu une semaine à la tête de LR après la déroute des européennes. Dimanche soir, Laurent Wauquiez annonce qu'il renonce.
Les défaites, elles sont solitaires. Et il faut que je prenne mes responsabilités. Je me retire de mes fonctions de président des Républicains.
Voilà. Qui va remplacer Laurent Wauquiez ?
Question posée à Christian Jacob, chef de file des députés LR.
Celui qui sera candidat et élu, c'est les deux conditions pour le remplacer.
Oui, d'accord. On n'a dit pas de langue de bois.
Mort de rire, Christian Jacob. En tout cas, ce ne sera pas la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui préfère s'en aller.
J'ai décidé de quitter les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti.
Les Républicains en état de décomposition avancée avec La République En Marche et l'extrême droite qui rêve de s'en partager les restes. La Macronie est déjà à l'œuvre pour les municipales. Au Rassemblement National, il y a ceux qui lorgnent sur l'aile droite de LR. Et comme par hasard, la revoilà, Marion Maréchal sort de son silence.
Comment demain on peut aller au-delà du Rassemblement National et surtout construire des forces politiques qui permettent ces fameuses alliances qui demain enfin nous permettront tout simplement de sauver la France en fait.
Sauver la France, rien que ça, d'autres préfèrent sauver l'humanité. C'est le cas du Vert. Yannick Jadot qui s'interroge lui aussi sur la stratégie à suivre.
Il va falloir très clairement dépasser Europe Écologie Les Verts. Mais surtout, on veut construire le grand mouvement politique de demain. Notre mouvement aujourd'hui veut conquérir le pouvoir pour l'exercer.
Bien loin de ce paysage politique en pleine recomposition, Emmanuel Macron lui est allé encourager les Bleus à Clairefontaine cette semaine, avant le début du Mondial, avec un message très clair.
98 a été le déclencheur pour le foot masculin, parce que la compétition s'est jouée chez nous. Bah, je suis persuadé que ça peut avoir le même effet de déclic pour le football féminin. Et on a une équipe qui a envie de gagner, on sera tous derrière.
Reste pour le public à se familiariser avec cette équipe.
Alors Wendy Renard, la capitaine déjà ?
Eh non, la capitaine désormais c'est Amandine Henry.
Comment que c'est la gardienne déjà ?
Je sais plus.
Boiry.
Boiry,
voilà.
Ah,
et du côté des professionnels, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ce n'est guère mieux, notamment quand on demande à Olivier Giroud s'il prévoit de regarder le match d'ouverture entre la France et la Corée du Sud.
Oui, je vais regarder le match d'ouverture. C'est mercredi. Ah, vendredi. Mince. Vendredi soir, c'est ça.
Bon les garçons, il va falloir vous y mettre là, c'est pas le tout d'être les champions, il faut encore être au rendez-vous, les supporters, eux, y seront.
Comme les garçons, à fond, ah bah oui. On suit pour les gars, on suit pour les filles, on sera à fond.
Et encore merci à Jérôme Chélius. Une semaine en France, toujours en compagnie de Jean Habitbol, qui est phoniatre. Je ne sais pas s'il y a un sujet qui a retenu votre attention et si vous souhaitez réagir à ce qu'on vient d'entendre.
Sur le foot?
Ou je ne sais pas, ce que vous voulez, la politique, le foot?
Sur le football, oui, c'est passionnant parce que c'est un sport d'équipe, c'est un sport collectif. Contrairement au tennis, qui est un sport individuel. Et là, on a deux façons différentes de voir le sport. Dans un cas, on vit avec l'équipe et on est partenaire de cette équipe. Et c'est l'équipe qui gagne et pas un homme. Exactement comme en chirurgie. Un chirurgien qui opère, il est pas seul. Si derrière lui, il a pas son anesthésiste et ses aides opératoires, faut pas croire. C'est l'équipe qui opère. Eh bien, en foot, c'est pareil. Maintenant, en individuel, c'est un peu différent.
Voilà. Le collectif avant tout. Vous vous êtes intéressé, Jean Habitbol, à la voix chez les politiques. Alors ça, c'est dans votre livre précédent, Le pouvoir de la voix. C'est intéressant parce que on va écouter justement deux extraits qui vont nous montrer qu'il y a eu une certaine évolution chez les politiques. C'est un exemple que vous prenez dans votre livre. On va écouter d'abord un extrait du fameux discours d'André Malraux pour le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. C'était en décembre 1964.
Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit.
Voilà pour ce discours mémorable.
Oui, c'est une voix de tribun. C'est une voix des années 50. C'est une voix qui ne savait pas très bien la puissance du micro, la puissance des ingénieurs du son. Et il fallait, dans cette voix qu'on parle comme ça, un peu traînante, que le public puisse avoir le temps d'écouter ce qu'il dit. Nous n'étions pas dans le zapping de la voix. Nous étions dans la beauté de la voix. Et ce qui est superbe là, on voit que ce que nous attendons là, ça pourrait presque être du Louis Jouvet. C'est presque l'acteur, et c'est l'acteur politique qui lui se met au service de la nation.
Alors ça, c'était un premier discours historique. Je voudrais vous en faire écouter un autre maintenant. C'était hier à Colville-sur-Mer, à l'occasion du 75e anniversaire du débarquement. Oui. Emmanuel Macron devant d'anciens combattants, d'anciens vétérans.
Je m'incline devant le sacrifice immense des 37 000 tués, des 19 000 disparus qui tombèrent en héros sur ces terres normandes entre juin et août 1944, et pour la plupart, y repose pour l'éternité. Je m'incline, et à nos vétérans et à leur nation, je dis merci.
Alors, le verdict du docteur Habitbol.
Alors, c'est super parce qu'on a une voix qui nous donne le temps, avec les silences et le rythme, de rentrer dans l'action. Mais ce qui, pour moi, je l'avais pas entendu, ce qui pour moi me touche, c'est que là, c'est l'individuel qui s'adresse au collectif, comme tout à l'heure, on dit il y a quelques instants. Alors qu'André Malraux s'adresse un peu à tout le monde et à personne. Là, non. Il prend comme cible tous les collectifs, y compris les disparus. Donc il met dans ses phrases le passé, le présent, mais également l'avenir, en donnant un mot sur ce qui va passer le lendemain, sans justement avoir cette voix de tribun qu'on considère aujourd'hui un peu comme artificielle, mais avoir la voix que l'on connaît, qui est la voix d'aujourd'hui.
Il a travaillé sa voix, Emmanuel Macron, parce que j'aurais vous remettre en mémoire ce fameux discours de fin 2016, quand il s'agissait de partir à la conquête du pouvoir.
Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Il a travaillé sa voix depuis.
Il a travaillé sa voix. Mais là, on est dans une voie de passion, dans une voie dans laquelle on est bien au-delà de la raison. On est bien au-delà de la commande de cette voix. On rentre dans l'émotion à l'état pur. Et là, ne demandez pas à quelqu'un qui est à l'émotion à l'état pur de pouvoir, quelque part, contrôler complètement sa voix. Après, quand on est chef d'État, là, on la contrôle, on apprend à la poser, et surtout avec la voix parlée, mais également avec la voix chantée.
Alors, dans l'actualité de cette semaine, Jean Bidbol, il y a aussi cette crise qui touche les services des urgences. Ça, oui. Ça fait des semaines que ça dure. Il y a plusieurs dizaines de services qui sont touchés un petit peu partout dans le pays. Cette semaine, on en a beaucoup parlé parce qu'à l'hôpital Lariboisière, à Paris, bien, les personnels sont arrivés à se mettre en arrêt maladie pour se faire entendre, parce même s'ils sont en grève, et bien, normalement, ils vont travailler. Je propose d'écouter ce que disait une personne de ce service des urgences de Lariboisière, Céline Belladj de Sud Santé. C'était donc mardi dernier.
Ce qui s'est passé cette nuit, le fait que le personnel soignant soit en arrêt maladie de façon massive, c'est un signal fort de la situation catastrophique de ce qui se passe aux urgences et plus globalement dans tout l'hôpital. On a des équipes qui sont littéralement épuisées, on a une augmentation du burn-out. C'est pas normal qu'en France, les gens, ils arrivent aux hôpitaux, ils soient obligés d'attendre 6 heures pour voir un médecin parce qu'on n'a plus de médecin. C'est une situation qui devient ingérable.
Voilà, et hier, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a promis un rapport à l'automne, et puis un plan d'ensemble. Vous qui êtes médecin et qui avez travaillé à l'hôpital.
Je connais très bien Lariboisière, d'autant plus que mon fils a été chef de clinique à Lariboisière et qu'il est encore assistant en ORL. Et si vous voulez, c'est plus que inacceptable. Parce que le
Qu'est-ce
médecin...
Qu'est-ce qui est inacceptable? Le fait que...
Le fait que, on, que les urgences soient
saturées
comme ça, bien sûr. Le médecin, lui, quel est son rôle? Il saigne une poignée de main à quelqu'un, et là, c'est là où il va donner de la chaleur à l'autre. Mais l'autre est tellement en détresse qu'il va considérer aux urgences, il a attendu 2 heures. L'autre n'est plus le médecin. C'est celui qui n'a pas voulu le soigner tout de suite. Car l'urgence, c'est ça. Sinon, on n'appelle pas ça un service d'urgence. On appelle ça un service de chronicité. On n'est pas dans le chronique, on est dans l'urgence. Et effectivement, pour moi, c'est inacceptable qu'on ait... Quand j'étais interne et chef de clinique à l'époque à Foch et puis à Beaujon, à l'hôpital Beaujon, on n'avait pas ce genre de choses. Que s'est-il passé, je ne sais pas. Mais en revanche, ce que je sais, c'est que oui, cette situation est inacceptable parce que le malade, oui, on doit le respecter, mais le médecin aussi. Et là, vous avez un manque de respect du médecin dans ce cas de figure. Et de ce fait-là, eh bien, il n'est plus motivé. La force de l'être humain, la force de l'homme, c'est la stimulation. Enlever cette stimulation, cet homme en question n'est plus grand-chose, ou il est dans la révolte.
On n'a pas formé assez de médecins, en tout cas. Il y a peut-être d'autres raisons à la surcharge des urgences.
On n'a pas formé assez de médecins, ou on n'a pas pris en compte cette énorme évolution, et je suis désolé de dire ça, mais il y a de la bobologie dans les urgences. Des gens qui viennent parce qu'ils ont mal au ventre, ou qu'ils ont mal à la gorge, mais c'est pas grand-chose. Donc le tri est fondamental également.
Il faut tout réorganiser.
Go down. Moses, way down in Egypt land, tell old I'm singing out.
Go down to Brother Moses.
Well then,
way down in Egypt land.
Tell-o, a Pharaoh to let my people go.
Singing out.
Go down to Brother Moses.
Well then,
way down in Egypt land.
Tell-o, a Pharaoh to let my people go.
Well, God called Moses on the mountaintop.
Why don't you let my people go?
Well, they put the laws in Moses' heart.
Why don't you let my people go?
Well, he stamped the laws in Moses' mind.
Why don't you let my people go?
Said Moses, don't leave my lambs behind.
Why don't you let my people go?
Singing now,
go down to Brother Moses.
Well then,
way down in Egypt land. Tell-o, a Pharaoh to let my people go.
Keep singing now,
go down to Brother Moses.
Well then,
way down in Egypt land. Tell-o, a Pharaoh.
Let my people go.
Golden Moses, le ouais, Golden Gate Quartet, c'est juste
comme
magnifique.
Comme quoi, chaque voix est un instrument de musique. Et là, on voit parfaitement ces quatre du Golden Gate que j'ai eu la chance de
connaître. Ah voilà, c'est pas par hasard hein, qu'on l'a programmé, ouais, oui. Parce que vous en parlez dans votre livre voilà. Le pouvoir de la voix, ouais. vous avez étudié
complètement
leur corde vocale.
Oui, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de voir Clyde Wright en 1987. L'histoire est très belle, il chantait dans un restaurant lors d'une fête où j'avais été invité, et c'est moi qui l'ai approché. J'ai dit, monsieur, on a une nouvelle technique qui permet de regarder les gens chanter. Est-ce que vous voulez bien venir me voir? Il me dit, avec plaisir, mais je vais faire mieux, je vais venir avec tout le Golden Gate. J'ai dit, comment, vous êtes du Golden Gate? Il dit, oui. Et j'ai effectivement filmé les Golden Gate Quartet, les quatre cordes vocales, enfin, les huit,
puisqu'il
y en a deux. Et puis, ils avaient tous... Une anomalie, mais qui est leur signature. C'est-à-dire qu'une corde vocale, quand ils se mettent à chanter en Negro Spirituals, qui se bascule sur l'autre.
Il y a une bascule. C'est-à-dire que les cordes
vocales se chevauchent.
De se frotter.
Exactement. Et dans le blues, on a ça. Et j'ai eu la chance, des gens qu'on ne peut pas citer, peu importe, mais la chance d'en voir d'autres. Et on avait la même chose. Et cette voix dite de blues, eh bien, c'est ce qu'on a. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils chantent depuis l'âge de 4 ans? Est-ce que c'est parce que c'est ce type de timbre? Mais ce que je voulais dire dans le Golden Gate Quartet, c'est que vous n'avez aucun instrument de musique. Tout est naturel. C'est la voix humaine. Et c'est la voix qui parle avec les instruments.
Voilà, c'est absolument formidable. Jean Bidbol, un petit mot de votre parcours. Vous êtes né en 46 au Maroc. C'est bien ça. Vous avez grandi à Paris, dans l'Est parisien.
Oui,
quartier
des buts de Chaumont.
Des buts de Chaumont. Voilà. Vous avez expliqué ça, hein, j'ai pas inventé non plus dans une interview au Figaro il y a pas très longtemps. Vous n'êtes pas d'une famille de médecins.
Non.
Votre père était coiffeur.
Tout
mais vous dites
fait.
Que c'était un artiste. Pourquoi dites-vous cela?
Mon père disait une chose magnifique. Je dis, papa, tu coiffes? Il me dit, non, je coiffe pas. Ce que je veux, c'est redonner la beauté au visage. Je viens peindre un visage. Je ne le coiffe pas. Et notamment, une chose qui m'avait frappé également, il me dit, tu vois les sourcils, la façon dont les femmes sont, ben, la coiffure va être différente en fonction de ce que je vais voir. Donc, il habillait le visage, il ne le coiffait pas.
Comment vous avez décidé, finalement, d'être médecin, oui?
Très simple, parce que c'était une chose qui me passionnait d'emblée de guérir les gens et d'avoir cette empathie positive. Et puis, quand j'ai fait médecine dans les premières années, j'ai fait mon armée. À l'époque, c'était au Val-de-Grâce d'une part. Et puis d'autre part, il a fallu quelque part gagner un peu sa vie. Et j'ai été médecin de campagne pendant les week-ends, pendant les vacances, pendant plusieurs années. Et ça a été pour moi mon mentor, en fait, parce que il s'appelait docteur Presgurvic. Il était à côté de Nangis, à Bray-sur-Seine. Et je me rappellerai tout le temps qu'il m'a dit une phrase absolument remarquable. Quand tu serres la main d'un malade, la vibration que tu lui donnes, tu l'as déjà guéri à 80%. Alors regarde-le, écoute-le. Et c'était lui qui doit te parler, pas toi qui dois lui parler. Et là, tu comprendras la médecine. Et c'est ça la vraie médecine. C'est vrai qu'il faut savoir qu'en France, on a d'excellents médecins, parce qu'on commence par une médecine générale et ensuite on est spécialiste.
Alors, pourquoi la voix ça aussi, vous l'avez expliqué, ça date de Noël 78, c'est ça. Vous étiez de garde aux urgences de l'hôpital d'Amiens, interne en chirurgie. Et là, il arrive une femme grièvement blessée dans un accident de la route, c'est ça?
Tout à fait. C'est-à-dire que j'étais donc en chirurgie générale. Et puis cette femme arrive, qui avait de 23-24 ans et qui avait eu un trauma à l'époque. Rappelez-vous, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. C'était un accident de la route. Elle avait eu un fracas de la face et on ne pouvait pas l'intuber. Il fallait faire une trachéotomie. Ce que j'avais appris uniquement sur cadavre, mais jamais sur un patient. Et on me dit, écoute, ou bien tu la trachéotomises, tu fais la trachéotomie, ou bien elle va mourir. Et j'ai encore d'ailleurs une marque sur mon index, puisque j'ai pris le bistouri, je me rappelais ce que j'avais fait sur cadavre. Et puis j'ai trachéotomisé en 2-3 minutes. Beaucoup de chance, faut avoir de la chance dans la vie. Et puis donc j'ai pu. Et je me suis fait d'ailleurs bizuter pendant 6 mois en disant, il nous a fait peur, il nous a fait dire qu'il ne connaissait pas la trachéotomie. En fait, il savait le faire. Et je me suis juré de savoir faire une trachéotomie le plus rapidement possible. L'hôpital le plus connu à ce moment-là, c'était l'hôpital Foch. Donc j'ai demandé à être interne à Foch et je suis devenu chef de clinique et j'ai découvert ce qu'était la spécialité ORL, négorge-oreille, c'est-à-dire la spécialité des sens, de l'écoute, de la voix, la spécialité du contact avec les autres. Et ça, c'était magnifique. La chance aussi a voulu que j'arrive au moment où la chirurgie laser arrivait en France. Et donc j'étais avec mon patron qui m'a initié à cela. L'un des premiers à faire du laser.
Alors, vous avez fait des tas de choses pour soigner les voix, si on peut dire. J'ai vu qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui viennent vous voir pour vous demander de rajeunir leur voix.
Oui.
Pourquoi ? Parce que socialement, c'est important d'avoir une voix jeune.
Ben, c'est-à-dire qu'ils viennent me voir en considérant que le visage... Je vais prendre un exemple très simple. Vous faites un lift et vous avez rajeuni de 15 ans. Et vous venez lors d'un cocktail et vous avez une coupe de champagne et on vient vous dire « Oh, bonjour, vous êtes super, madame. Oui, ça va et vous ?» Eh bien là, il y a un problème, quoi. Il y a l'identité de la voix n'est plus la même. Effectivement, on essaie d'harmoniser le corps, si vous voulez, et la voix. Mais ceci est quelque chose de très délicat.
C'est quelqu'un qui vous dit « J'aime pas ma voix », vous n'allez pas forcément
pas
suivre
jamais.
Son...
Je dois opérer ça pratiquement demande. 3% des gens qui viennent pour cela. C'est très rare. D'abord, c'est de l'orthophonie. Ensuite, c'est un accord avec soi-même. Il y a un problème de personnalité, bien évidemment. Et puis, surtout, c'est que changer une voix, la chirurgie de la voix, c'est pas enlever un appendice, c'est pas une chirurgie du côlon. C'est une chirurgie émotionnelle.
Quand vous, si ça, je vous ça parle touche comme à la ça, personnalité.
Bien sûr. Si je vous parle comme ça, j'ai un polype sur la corde vocale. J'ai ça depuis 15 ans. Et puis, je vous opère. Puis, allez-vous mettre à parler comme ça? Ça ne colle pas. C'est plus vous. Vous devenez schizophrène de votre voix. Donc la voix en soi est une signature. C'est votre empreinte. Gardez-la. Soyez en harmonie avec elle. Et à ce moment-là, si vous ne l'êtes plus du jour au lendemain, c'est que quelque chose s'est passé et que la voix vous sert d'alibi.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir sa voix sans aller faire des choses extraordinaires ?
Très simple. Il faut avoir une hygiène de vie. Les gens qui ont des belles voix sont, dans la majorité des cas bien sûr, sont des sportifs de la voix. Ce sont des gens qui font attention à leur hygiène de vie, avec des compléments alimentaires, avec tout simplement une tisane au thym, une cuillère à soupe de miel par jour. C'est tout simplement également des choses simples qui sont du curcuma en comprimé de le matin au soir. C'est des solutions très simples. Des inhalations avec du calyptus, des sens de thym, du romarin. Plus on est simple, plus on est, entre guillemets, c'est le terme aujourd'hui, écologique. Mais c'est vrai, au niveau de la voix, c'est plus que vrai. Et je veux juste insister là-dessus. C'est que le tabac, c'est terrible pour les cordes vocales. Mais il faut pas être agressif par rapport à ceux qui fument 2-3 paquets par jour. C'est une drogue en soi. Il faut les aider, mais pas venir en leur disant « ne fumez pas et on verra après ». Non, il faut les aider dans tout le parcours. Et la preuve en est, on a connu des Whitney Houston qui, à l'époque, en 2012, nous a quittés parce qu'on n'a pas su écouter les gens.
Merci pour cette consultation et ce message, Jean Habitbol. On va passer à présent, comme tous les vendredis, à notre rubrique Les Bonnes Ondes. C'est avec Sandrine Houdin qui vient d'arriver dans ce studio. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Alors ce soir, on va s'intéresser à une étrange pratique qui se répand partout en France, les salles de démolition. Il existe en effet des endroits où, moyennant un droit d'entrée, on peut aller se défouler en cassant tout ce qui vous tombe sous la main. Ça paraît un petit peu fou.
Le jeu consiste à louer une petite pièce, en général entre 20 et 30 minutes. On choisit sa formule, soit on se retrouve dans un décor de cuisine avec de la vaisselle, des bouteilles, de l'électroménager, soit dans un salon avec des meubles et une télévision par exemple. On a aussi la formule vide bureau avec écran d'ordinateur, clavier et imprimante. Et au top départ, eh bien le but du jeu, c'est de tout péter.
Mais comment on fait ? C'est pas avec ses petites mains qu'on fait ça ?
Et selon les salles, on peut s'armer d'une batte de baseball, d'un pied de biche, d'une barre à mine, à la limite, peu importe, du moment qu'on se défoule. Si on paye justement, c'est pour ressortir de la pièce plus détendu qu'on y est rentré.
Alors le concept nous arrive du Japon, il s'étend un petit peu partout. Depuis la première salle à Paris fin 2017, on a maintenant le Dégommoir à Nice, le Carnage Club à Toulouse, le Défouloir à Lille. Alors on va pas toutes les citer ces salles. Vous avez testé, vous Sandrine, la Fury Room à Mérignac, c'est tout près de Bordeaux.
Je vais prendre votre taille de chaussure.
42.
Taille en dessous parce que ça taille grand. Tenez, une fois que vous avez mis vos chaussures, je vais vous donner des plastrons. Ça s'enfile comme un gilet.
Question de sécurité, protection maximum de la tête aux pieds.
Vous avez le choix entre des visières, des casques de moto ou sinon des masques comme ça. Niveau des armes, est-ce que vous savez ce que vous voulez? Batte, pied de biche, marteau.
10 minutes plus tard, on pousse la porte.
Bienvenue dans le SAS. Vous allez bientôt pénétrer dans l'antre où, depuis maintenant plusieurs mois, des furieux en folie se sont déchaînés et ont fracassé des milliers d'objets. 5, 4, 3, 2, 1.
Les séances s'enchaînent, les décors aussi.
Il y en a qui aiment bien cette sensation d'exploser quelque chose, surtout ce qui est verre et vaisselle. Et après, il y a ceux qui vraiment ont envie de se défouler et ont besoin de taper sur quelque chose qui est résistant, à savoir tout ce qui est ordinateur, imprimante, tout ce qui est électroménager également, ça peut être des grille-pains, c'est vraiment en fonction de chacun.
Olivier Taïeb a ouvert le centre il y a 6 mois.
Qui vient tout casser?
C'est des profils qui sont très différents les uns des autres. Hier, il y a eu quelqu'un de Mont-de-Marsan qui est venu parce qu'il venait de se faire larguer, ou quelqu'un qui vient de se faire virer par, je sais pas, son patron. Ça peut être vraiment tout type de profil. Une femme, une fois, qui va nous demander si elle pouvait casser des légumes. Bon, c'était pas possible dans la salle parce qu'après, ça demande beaucoup de cleaning, etc. Mais c'était assez marrant comme expérience.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore?
Je pense qu'il y en a aussi qui ont un peu marre de cette routine quotidienne, qui ont envie de passer un moment fun. Voilà, ils sont dans la salle, ils donnent tout, ils crient, et puis ça leur fait du bien.
Donc il y a pas que le côté on passe ses nerfs.
Non, à ce niveau-là, il y a pas que des profils de personnes qui pètent les plombs.
Et les âges?
Tout type d'âge aussi, puisque ça commence à 12 ans l'expérience, et ensuite ça s'étale. On a eu une femme une fois qui avait 60 ans, plus de 60 ans même, elle a fait 15 minutes à tout exploser, et quand elle est sortie, elle était en larmes.
Mais il y a beaucoup de femmes.
Beaucoup de femmes, alors ici c'est assez équilibré, mais en général c'est une activité qui est très féminine, plus de 2/3 de clients qui sont des femmes.
Ah, ça sort.
Ça c'est vous ça?
Ah bah c'est nous trois, on a tout cassé.
Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le baseball. Quoi. On se lance les bouteilles et on essaie vraiment de la fracasser. Il y avait des assiettes aussi, un peu en mode frisbee.
Mais on pense à quoi?
À rien.
Justement.
On tape. Voilà.
Et en quoi ça te défoule?
On peut pas le faire à la maison, voilà.
Ah, c'est ça. Tout ce qu'on rêve de faire.
Voilà, c'est ça, c'est inhabituel en fait.
Autre groupe.
Ben, ça fait du bien, ça défoule.
C'est-à-dire?
Je suis un peu essoufflé.
Quelle est la différence physiquement entre une séance comme celle-ci et, je sais pas, une séance de sport traditionnelle?
C'est plus intense. Et là, il n'y a pas d'objectif en fait. L'objectif, il est simple, c'est on défonce tout, point.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, enfin, c'est ridicule?
Qu'ils essayent, après on verra.
Comment vous expliquez que ça explose des furry rooms partout?
Parce que les gens ont besoin de se défouler, tout simplement.
La preuve.
Alors maman, c'était comment? Ça défoule, oui.
On vous voit pas là, mais vous faites le geste de taper.
Oui, oui, oui.
Vous avez pensé à quoi?
Des choses du passé que j'avais pas digérées, des problèmes au travail que j'avais eu. Si on a vraiment besoin de se défouler, c'est un bon truc.
En tout cas, ça attire.
Je connaissais pas. Je venais juste boire un petit verre. Vous avez essayé, vous?
Non, j'ai pas encore essayé. Comment trouvez ça, l'idée?
Mais c'est excellent. Avec tout ce qui se passe de nos jours, on a besoin de se défouler. Hein. Vaut mieux se défouler de cette manière-là, de façon ludique et intelligente, plutôt qu'aller fracasser la première personne qu'on peut croiser dans un trottoir ou... Ah, c'est énorme. Non, c'est énorme. Pour moi, ça, c'est la gestion du stress, c'est la gestion des conflits, c'est le bien-être intérieur. On devrait demander au président Macron de mettre ça en place, hein, honnêtement. En fait, franchement, j'avais déjà pensé à aller me défouler dans une casse. Ça va bon, et ça, c'est énorme. Non, mais franchement, vu tout ce qui se passe de nos jours, les gens, ils sont stressés, ils sont pas bien.
Payer pour casser, ça vous dérange pas?
Franchement? Ah ben non.
Ça vous choque pas qu'on en soit là?
C'est peut-être triste d'en être à payer pour se défouler, mais c'est une solution qui est vachement saine, en fait.
Jusqu'au bout.
Tous les objets qu'on utilise sont hors d'usage. C'est des objets qui sont plus utilisables. Tous ces objets, en fait, on les récupère. On leur donne une seconde vie, en fait, à Furoom, puisque les objets vont être cassés. Et ensuite, nous, derrière, on va les recycler.
Donc, il n'y a pas de gâchis?
Aucun gâchis. Dans la chaîne, il n'y a aucun gâchis.
Vous avez
essayé, Sandrine?
Votre regard. Non, j'ai pas eu le temps. Mais je vous assure, c'est impressionnant.
Ça coûte combien d'aller tout casser comme
Alors,
ça?
Alors, dans cette Fury Room à Mérignac, entre 15 et 30 euros par personne.
Bon, d'accord, ok. J'ai envie de bol, un commentaire. Je sais pas si ça vous inspire.
Un seul, c'est dramatique. C'est dramatique parce que ça montre que visiblement, ces gens-là, ils sont dans une impasse. C'est une impasse telle que pour eux, c'est l'acte physique, mais et non pas la concentration dans le karaté, dans les arts martiaux, dans le kung-fu, dans le krav maga. Vous pouvez, mais vous avez la possibilité quelque part d'avoir une, entre guillemets, un défoulement. Mais ce défoulement n'est pas seulement physique. Et la décharge d'endorphines qu'ils peuvent avoir, parce que finalement, c'est ça qu'ils recherchent. C'est une décharge d'endorphines de folie. mais le sport le fait tranquillement, sans avoir besoin d'aller dans ses impasses.
Alors, Sandrine, moi, j'ai quand même une question. Comment expliquez-vous que ça se multiplie, comme des petits pains, là, depuis deux ans?
Parce que ça se multiplie dans la mesure où il y a un mécontentement tel que les gens se sentent dans une impasse et ils n'aiment pas être pris dans une souris. Et j'ai pas le temps de vous raconter l'histoire extraordinaire du réflexe d'une souris qu'on met dans une cage. Et quand elle sait qu'elle a une sortie, eh bien, à ce moment-là, elle n'aura pas de stress. Vous l'enfermez et vous faites des décharges. Et à ce moment-là, elle devient agressive.
Ferait mieux de faire du chant, hein?
Alors, exactement. J'allais y venir, mais c'était pas le moment. Mais
c'est effectivement, plus apaisant.
Faites-leur faire du chant, faites-leur faire du rock, casser une guitare dans une scène, je veux bien. Mais là, la force de la voix chantée, c'est qu'elle fait appel à vos émotions, et elle vous enlève ce monde de la raison. Et là, en étant dans cela, vous équilibrez les forces entre les deux. Et chez tous mes patients qui ont effectivement des problèmes de stress et qui se mettent à parler comme ça, je leur demande non pas seulement de faire de l'orthophonie, mais de prendre des cours de chant.
D'aller prendre des cours de chant, parce qu'en plus, la voix, c'est un instrument de séduction. Jean-Bic Boll, vous le dites bien dans votre livre, vous dites « Les vibrations de la voix humaine déclenchent des stimuli, les phéromones et la sécrétion des hormones sexuelles. » Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un dont on n'aime pas la voix?
Oh, c'est une belle question. Pour moi, non. Mais c'est vraiment très personnel. C'est-à-dire que on n'aime pas sa voix. Si la voix va être votre moyen de communication avec l'autre, si vous n'aimez pas sa voix, c'est que quelque part vous l'aimez pour quelque chose qui peut être d'artificiel ou de superficiel. Parce que la voix va vous toucher au plus profond de vous-même, va vous faire vibrer dans vos émotions et va créer immédiatement une réponse à cette voix en question.
Un très grand merci, Jean-Bic Boll, d'être venu nous voir ce soir. Je rappelle le titre de votre livre, Voix de femme. C'est chez Odile Jacob. Et puis, il y a aussi le précédent ouvrage, Le pouvoir de la voix. Et puis, il y avait eu aussi avant l'Odyssée de la voix. Tout cela est passionnant. Un très grand merci à vous. Dans un instant, le journal de 19h. Ensuite, il y aura le téléphone sonne consacré ce soir à la place des femmes dans le sport en général et dans le foot en particulier, à moins de 2 heures maintenant du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football, Coupe du Monde féminine de football. Alors, on sera avec 3 spécialistes, dont 2 anciennes joueuses. Surtout, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Je voudrais qu'on termine cette émission en réécoutant quelques secondes la voix de quelqu'un qui nous a quittés cette semaine, quelqu'un qu'on aimait beaucoup ici à France Inter et notamment dans cette émission. Le philosophe Michel Serres, écoutez ce qu'il disait à propos du paradis.
Moi, j'aime bien courir le vaste monde et à travers 1000 pérégrinations par monts et par vaux, car le monde est beau, il vaut le déplacement et c'est peut-être le monde qui est le paradis. Oh, cela dit, je crois qu'il y a un petit secret quand même, c'est que le vrai paradis, c'est quand même l'amour partagé.